Bonjour à tous et bienvenue à vous sur l'antenne de Radio G au 4-9 en transition. Dans cette émission, nous discutons de la transition écologique sous toutes ses formes dans le Maine-et-Loire, avec ses acteurs divers et variés, sa culture et son travail personnel, collectif ou associatif. Cette semaine, nos valises nous mènent dans l'association Alizé pour parler de transition énergétique. Alizé, c'est l'association ligérienne d'information et de sensibilisation à l'énergie et à l'environnement. Vous connaissez pas ? Eh bien, ça tombe bien. Nous avons 30 minutes pour découvrir et comprendre les enjeux de cette structure et son travail dans notre transition écolo avec énergie, bien sûr. J'accueille donc aujourd'hui dans le studio Monsieur Benjamin Pinon de l'association Alizé, qui est donc administrateur sur l'association. Benjamin, bonjour et bienvenue dans le studio.
Bonjour.
Content d'être là ?
Merci de votre accueil.
Alors, parlons un peu de l'association. Dites-moi tout. Qu'est-ce que c'est que cette assos ? D'où ça sort ? Depuis quand ça existe ? Enfin bref, faites-moi un petit topo, une petite intro.
Alizé vient de fêter ses 30 ans. C'est une association qui s'est constituée pour proposer des alternatives à l'enfouissement de déchets nucléaires qui était prévu sur le Bourdiré. Et depuis ces 30 ans, un grand chemin a été parcouru parce que nous sommes maintenant plus de 50 salariés et nous travaillons sur des thèmes divers. Alors, une association, nous sommes très attachés à ce statut, loi 1901, qui a déjà survécu à plusieurs constitutions, qui est très intéressant dans le fait que les adhérents élisent des administrateurs et les administrateurs donnent la direction, encadrent l'équipe de salariés qui s'occupe de mettre en place des opérations concrètes. Alors, Alizé a deux missions. On appelle ça porteur de parole, le mot à la mode c'est plaidoyer, et puis une autre mission qui est porteur de solutions, ça veut dire vous aider à passer à l'action. Alors pour ces deux missions, on s'appuie sur trois piliers. Le premier pilier c'est l'usage, questionner l'usage, est-ce qu'on a vraiment besoin de ça ? Le deuxième pilier c'est la technique, est-ce qu'une fois qu'on a validé notre usage, la technique que l'on emploie est la meilleure ? Et le troisième pilier, c'est l'humain. Parce qu'une fois qu'on a identifié la meilleure technique, il faut la mettre en œuvre et il faut décider. Et donc, pour passer à l'action, les conseillers Alizé et les salariés d'Alizé sont très à l'écoute et proposent des solutions ou des parcours pour vous aider à mettre en œuvre des solutions qui vont participer à la transition écologique.
Alors, quand vous dites nous aider, vous dites pour des particuliers, pour des entreprises, pour qui ?
Alors, pour ce que l'on appelle les usagers et qui sont effectivement des particuliers, mais aussi des entreprises ou des collectivités, suivant les programmes qui sont mis en œuvre.
Ce qui veut dire en substance que si on a besoin d'un coup de main, c'est sur quoi ? Quand est-ce qu'on vient toquer à la porte de chez Alizé ?
Alors, le grand public peut le faire pour ce qui est de son habitation, par exemple l'amélioration de l'habitat, qui est notre cœur de métier. Alors, Alizé anime France Rénove. Donc, si vous avez un projet de rénovation, vous pouvez appeler Alizé pour prendre des renseignements.
D'accord. Donc, à l'époque où ils nous ont sorti la fameuse isolation à 1 € pour les toitures, qu'on a reçu 25 000 coups de fil par semaine de promoteurs qui voulaient faire ce truc-là et qu'on ne savait pas ce que c'était, la meilleure solution, ça aurait été d'appeler Alizé pour dire « Mais c'est quoi ce truc-là ? Est-ce que ça existe vraiment ? Est-ce que ce n'est pas une arnaque ?» etc. pour avoir toutes les informations comme il faut, en fait.
On propose bien de nous changer la chaudière pour 1 € aussi. Alors, c'est pas pour autant que c'est une arnaque, mais est-ce que c'est vraiment une bonne idée ? Voilà, c'est ça la question. Parce que quand on isole la toiture, là, pour 1 €, les mécanismes qui sont derrière, qui sont en jeu, c'est les crédits carbone, et les entreprises qui distribuent de l'énergie fossile, qui doivent contribuer à décarboner l'énergie, donc sont obligées de faire des actions. Alors, c'est une très bonne idée, parce que de toute façon, un toit isolé dépense moins d'énergie qu'un toit pas isolé, donc c'est très clair. Mais néanmoins, est-ce que c'est tout le temps la meilleure idée ? Non, parce qu'il aurait peut-être fallu profiter de faire des travaux pour faire des travaux plus complets et pour avoir une rénovation complète de qualité, une rénovation thermique globale. C'est ce pourquoi milite Alizé, de façon à ne pas juste isoler le toit et que tout continue à partir par les murs ou par les fenêtres. En l'occurrence, plus les fenêtres, parce qu'il y a eu également une opération sur les fenêtres. Mais ça se conçoit dans une globalité et aussi en tenant compte de la santé et de la ventilation, qui est aussi important que l'isolation.
Il n'y a pas que l'isolation à travailler sur la maison. En effet, il y a d'autres choses.
Eh oui, alors l'isolation se questionne comme avec nos trois piliers, on peut arriver par l'usage qu'on doit en faire. Elle a une fonction d'usage qui est de limiter les échanges thermiques, mais on a aussi un autre usage, c'est qu'on vit à l'intérieur de notre maison, donc on y fait des activités, donc il faut que ça soit sain, et donc aussi permettre un certain nombre, malgré tout, d'échanges avec l'extérieur.
Donc là, l'association, elle travaille dans ce sens-là, de réduction, d'énergie, et aussi de réflexion.
L'association, elle a 5 domaines d'activité que je vais énumérer. Elle a la mobilité, elle a l'éducation, la maîtrise de l'énergie, c'est de ce dont on vient de parler, avec la rénovation énergétique, et puis les énergies renouvelables. Alors on peut peut-être prendre un exemple pour l'éducation. Pour l'éducation, par exemple, il y a les classes défis énergie. Donc les professeurs qui sont intéressés inscrivent leur classe et un animateur vient former les élèves aux éco-gestes, et pas que les élèves d'ailleurs, parce que c'est sous une forme de compétition. Alors compétition entre les élèves et puis compétition également entre les établissements, mais sous forme ludique. Donc on apprend les éco-gestes. L'idée est que ça soit pas pesant, que ça soit ludique. Derrière la mise en action des enfants, on peut aussi toucher les parents. Parce que dans une petite vidéo qu'il y a sur YouTube, les formateurs ou professeurs là, disent bien que les élèves, si on les force, ça sera un petit peu difficile et on risque d'avoir l'effet inverse. Donc il faut bien qu'il soit volontaire.
Comment ça se passe sur Angers? C'est-à-dire que là, on peut retrouver ce type de structure sur Nantes, peut-être en plus gros. Comment ça se passe sur Angers? Vous êtes combien? C'est où?
Alors à Angers, nous sommes à la MATP, l'ancienne école d'aviation, rue René Gagnier.
À la maison de l'architecture.
À la maison de l'architecture, voilà. Donc on partage les locaux. On a notre étage, mais on partage avec le CAUE et l'ADIL, qui sont des structures de conseil en lien avec l'habitation. Alors, on est sur Angers, une dizaine de salariés. Alors, avec le Covid, il y a eu des choses qui changent, il y a eu du télétravail. Donc, mais une grande partie des activités peuvent se faire à distance, donc on n'a pas été trop impacté par le Covid. Et puis après, il y a des rendez-vous sur place pour certaines actions. Mais la grande partie de l'activité d'Alizé, c'est le conseil par les espaces qui s'appellent France Rénov maintenant. Et ça, c'est du conseil téléphonique, donc ça se fait à distance.
D'accord, ok. Donc là, si on a un particulier et qu'on veut un conseil pour rénover sa maison en termes énergétiques, on peut le faire. Si on est une classe à l'école ou un professeur ou un instituteur et qu'on veut être sur les défis classe énergie, pas de souci, on peut le faire. J'ai vu aussi que vous aviez les familles à énergie positive, où vous pouvez... c'est quoi? C'est des groupes de familles, en fait, c'est ça?
Voilà, alors encore une fois, c'est sous forme de volontariat. Une fois qu'il y a quelques familles qui se regroupent et qui décident de se lancer un défi, il y a un animateur qui vient, qui commence par faire le point au début des habitudes, et puis mettre en place quelques indicateurs qui nous permettent, et vous permettent surtout à vous, de mesurer vos progrès. Et ce qui est là, pas forcément ludique, mais quand même intéressant pour les familles, c'est que normalement, les progrès, ça se traduit par des euros économisés. Donc ça peut motiver quand même.
C'est le principe de l'écologie, c'est aussi économique. Bon, sauf si on prend une voiture électrique. Bon, bref, on ne va pas en parler.
Hein, on peut parler de la voiture électrique parce que là, on aborde un point. Dans l'absolu, c'est économique, mais on peut être amené à passer une phase de transition qui, elle, n'est pas économique.
C'est souvent le cas dans tous les domaines, d'ailleurs. Et il y a aussi produire son électricité. Il n'y a qu'au watt. Et ça, j'aimerais bien qu'on en parle.
Voilà, alors, c'est un des cinq domaines d'activité, c'est les énergies renouvelables. Alors, on a une vision et une ambition un peu plus large que l'électricité, mais effectivement, pour l'instant, ça se limite effectivement aux panneaux solaires, photovoltaïques, et si vous avez un toit disponible et pas d'argent et la volonté de contribuer à la transition écologique, vous pouvez proposer votre toit et Kowatt trouve des coopérateurs pour faire une mini coopérative et apporter des fonds en complément suffisant pour pouvoir avoir un emprunt de façon à pouvoir acheter les panneaux. Et autre point de vue, vous avez des sous et vous souhaitez les investir dans la transition écologique et en particulier dans la production d'électricité et vous n'avez pas de toit, dans ce cas-là, Kowatt peut vous mettre en relation avec des personnes qui ont un toit. Donc Kowatt est un indépendant maintenant d'Alizé, mais a été incubé pendant longtemps par Alizé. Et Alizé est chargé de l'animation de certains groupes.
Et donc là, vous avez des résultats dans le département, dans le Maine-et-Loire. Il y a des choses qui se sont passées avec Kowatt par rapport à des toitures avec du photovoltaïque.
Alors j'ai en tête, moi, une opération pour laquelle j'ai participé personnellement, qui est le mine, leur marché d'intérêt national, mais celui de Nantes, sur lequel il y a, je crois que c'est la plus grosse centrale photovoltaïque citoyenne des Pays de la Loire. Mmh. Et il y a d'autres projets dont je ne suis pas directement au courant, qui sont en cours de montage et certains ont abouti, je crois, sur le toit d'une école à Angers. Je ne sais pas si c'était en lien directement avec le budget participatif de la ville d'Angers, mais c'est possible, en tout cas, à ma connaissance, sur une école. Il y a des panneaux photovoltaïques qui ont été posés et qui sont gérés par les citoyens.
On va faire une petite pause musicale, une première pause musicale. Donc, comme je vous l'ai expliqué dans cette émission, ce sont les invités qui choisissent la programmation musicale. Vous avez choisi quelque chose, vous allez nous dire ça?
J'ai choisi Highway to Hell de AC/DC.
On l'écoute et puis vous nous dites après pourquoi.
Leave me be.
Alors, c'était I Went to Hell de la CDC. Pourquoi ce choix ?
D'abord musicalement, parce que ça donne quand même de l'énergie. Et puis, y a des parallèles avec la situation un petit peu du monde et puis nos situations personnelles à chacun dans lesquelles on est confronté à faire des choix et on ne fait pas forcément des bons choix. C'est un peu l'engrenage qui se met en route. Donc, ça parle beaucoup d'égoïsme et de vitesse, en fait, cette autoroute
de l'enfer.
Pour l'enfer. Où on demande aucune limite, donc et en fait on se rend compte que ça va être vite l'enfer s'il y a aucune limite dans aucun sens. Et puis ça parle aussi de l'effet grisant de la vitesse et qui peut être un petit peu dangereux. À Alizé, on n'est pas pour la vitesse à tout prix.
Ouais, vous me racontiez tout à l'heure avant l'émission que pour vous il y avait un vrai problème à continuer à accentuer notre besoin en électricité et à nous dire que il fallait que ça cesse puisqu'on doit réduire énormément notre consommation. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire par rapport à ça? Parce que c'est vrai que c'est super compliqué. Enfin, on est toujours à en consommer un peu plus et on nous dit toujours qu'il faut en consommer toujours moins.
Je vais prendre l'exemple de la mobilité sur lequel on travaille également à Alizé, effectivement, et le lien avec la vitesse. Donc, le fait d'aller vite demande beaucoup plus d'énergie. Et pour autant, ce n'est pas forcément un besoin aussi essentiel que ça. De juste gagner quelques minutes, ce n'est pas forcément essentiel.
Et là, vous pensez qu'il y a quoi ? Il y a un travail d'éducation à faire ? Est-ce qu'on a besoin de comprendre que de faire du 120 sur une route au lieu de faire du 90 ne va nous faire gagner qu'une minute et demie en arrivant à notre destination et que finalement, on a juste frôlé la mort pour rien ? Comment on fait pour que les gens ils changent leur façon de faire par rapport à toute forme d'énergie ?
C'est là où le facteur humain est très important parce que on le sait, mais néanmoins on est tous tentés d'appuyer un petit peu plus fort sur le champignon parce que on est un peu en retard par exemple, parce que on se dit qu'on a des obligations professionnelles, mais aussi surtout parce qu'on est pressé d'arriver en vacances. Le premier point, c'est d'en prendre conscience. Je crois que maintenant, tout le monde en a conscience. Tous les gens qui se posent la question en ont conscience. J'en veux pour preuve la proposition de la Convention citoyenne qui était de baisser la vitesse de 110 à 130 sur l'autoroute, et qui a été censurée par le président. Donc, c'est une des solutions. Alors, à Alizé, on prône des solutions. Il faut faire des petits pas, évidemment. C'est pas ça qui va sauver le climat, de passer de 130 à 110. Mais au bout d'un moment, il faut bien commencer à faire des choses et faire les petits pas. Donc, nous faisons les petits pas. Donc, certains se moquent de nous parce que peut-être que l'échelle n'est pas adaptée. Le conférencier Yves Marignac nous disait qu'il fallait courir. Et donc, quand on fait des petits pas, on tombe. Mais si on court dans toutes les directions, on ne va pas forcément plus loin non plus. C'est tout un ensemble de choses en sachant qu'on va devoir accélérer.
Donc, vous parlez du conférencier parce que justement, vous avez mené une action qui est passée et sur Nantes et sur Angers il y a une semaine à peu près. Vous nous racontez un petit peu ? C'était quoi l'enjeu ? C'était quoi le thème ?
Alors, le thème, c'était de savoir, de s'informer avec des chiffres un petit peu objectifs sur est-ce que c'est possible, parce qu'on nous parle de neutralité carbone, là, et puis on est tous un petit peu dubitatif, non pas parce que c'est la neutralité carbone, mais parce que c'est dès 2050, et donc, est-ce que c'est possible ? Alors, nous avons, avec les associations Virage Énergie et Énergie Citoyenne en Pays de la Loire, qui a changé de nom et qui est maintenant RECI, invité Yves Marignac de l'association Négawatt. Donc l'association Négawatt prône une transition basée sur trois principes. D'abord la sobriété, ensuite l'efficacité et enfin le renouvelable. Alors, la sobriété, ça se rapproche un petit peu de ce qu'on appelle l'usage chez Alizé. Quand on questionne les usages, est-ce qu'on est vraiment obligé de faire cette action ? Ou est-ce qu'on peut la faire différemment ? L'efficacité, ça a plutôt trait aux techniques. Une fois qu'on a déterminé que l'action était nécessaire, il faut choisir la meilleure technique pour la faire et la plus efficace. Donc, en termes de transmission d'énergie, d'utilisation d'énergie non renouvelable. Et puis, enfin, même si on utilise une énergie renouvelable, il faut malgré tout être efficace parce que dans un premier temps au moins, on ne va pas pouvoir disposer d'énergie renouvelable de façon aussi quantitative que l'énergie non renouvelable que l'on dispose actuellement. Et donc c'est pour ça qu'il faut quand même travailler sur l'efficacité, parce qu'on pourrait se dire, on aura de l'énergie gratuite et infinie, donc c'est pas la peine de faire ni attention à l'efficacité, ni même aux usages, allons-y, parce qu'effectivement, le soleil nous envoie une quantité d'énergie phénoménale. En une heure, l'ordre d'idée c'est qu'en une heure, il envoie plus que toute l'énergie consommée sur Terre. Mais néanmoins, elle n'est pas forcément utilisable aussi facilement que ça.
Du coup, dans cette conférence, normalement a été abordée aussi la question de l'électricité nucléaire. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Qu'est-ce qui s'en est dit ce jour-là ?
Le scénario Négawatt envisage une sortie du nucléaire, très clairement, au fur et à mesure que les réacteurs vont arrêter en fin de vie. Ils ne sont pas reproduits ou reconstruits. Et donc, il faut trouver des alternatives, et l'alternative n'est pas de couvrir l'entièreté du territoire avec des éoliennes tous les 150 mètres. Donc c'est pour ça qu'il est important de faire des efforts de sobriété. Cette conférence a aussi introduit l'idée de l'utilisation des matières. Parce qu'on fait une utilisation effrénée de la matière. Alors, pas uniquement par les petits déchets d'emballage, mais d'une façon globale, il faut augmenter notre efficacité à réutiliser la matière, augmenter les taux de recyclage. Et par exemple, dans le bâtiment.
C'est-à-dire ?
Les bâtiments, aujourd'hui, sont prévus dans les cycles d'analyse de vie pour 50 ans. Si on les prévoit plus convertibles, on pourra allonger la durée de vie et donc réduire l'empreinte carbone qui a été nécessaire pour fabriquer ces bâtiments. C'est pour ça qu'il ne faut pas lésiner sur la qualité. Ça n'a jamais été le discours.
Tout ce qui est fait, que ce soit politiquement, mais aussi au niveau de notre société de consommation, je parle de toutes les consommations énergétiques, etc., tout est fait pour aller au moins cher. Donc la qualité, elle n'est pas toujours au rendez-vous. Et les gens aussi, ils n'ont pas un budget extensible pour aller vers des énergies renouvelables, pour aller vers un bâtiment basse consommation, avoir son appartement ou sa maison bioclimatique. Enfin, c'est pas à la portée de tout le monde en termes de budget. Et le sentiment qu'on a, c'est que c'est quand même pas hyper suivi par les entreprises qui proposent aussi la construction, etc. Dans le sens où, justement, on veut du moins cher, mais on peut pas avoir du moins cher et du plus qualitatif nous permettant d'être plus économique en termes d'énergie, en termes de recyclage, de matériaux.
Je suis pas du tout d'accord avec ça. Parce que pour moi, on peut faire moins cher et plus qualitatif.
J'ai pas dit qu'on pouvait pas, j'ai dit que je trouve pas que ce soit assez fait, c'est différent.
C'est pas facile en tout cas, de faire moins cher et plus qualitatif. Mais il y a bien des solutions qui existent, donc j'ai pas de doute là-dessus. J'ai même envie de dire que plus c'est qualitatif et des fois moins c'est cher. Une petite blague, j'ai quelqu'un de mon entourage qui dit on n'est pas assez riche pour s'acheter des produits de bagane.
Je trouve ça vachement intéressant de le dire comme ça.
Oui, en fait, comment faire plus qualitatif, peut-être un tout petit peu plus cher à l'achat, mais il y a aussi tout l'usage et la durée de vie. Si on achète quelque chose deux fois moins cher, mais qui dure quatre fois moins longtemps, au bout d'un moment, ça nous coûte deux fois plus cher.
Et ça moi, pour moi, enfin, alors vous comprenez bien que je vous ai poussé un petit peu exprès dans cette question, mais pour moi, ça, c'est une question d'éducation. Je trouve que les gens sont... C'est une grosse généralité, mais que les gens sont encore un petit peu dans ce contexte où ne pas payer cher tout de suite et après on oublie. Vous voyez ce que je veux dire ? Et je trouve que c'est un enjeu éducatif que de comprendre que acheter quelque chose, que ce soit de l'ordre du bâtiment, de l'énergie, des choses à manger, de ce que vous voulez, mais qui soit durable et qui soit de bonne qualité justement et qu'on puisse garder très très longtemps, me semble très intéressant. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est réellement entré dans l'inconscient, dans le conscient des gens, de se dire bah il faut que j'achète mieux pour pouvoir acheter moins?
Alors moi, je serais assez prudent sur le fait de donner du conseil sur est-ce qu'il faut les éduquer comment acheter. Les gens sont assez grands pour savoir ce qu'ils doivent faire eux-mêmes. Par contre, on doit leur donner l'information. Et là, l'information, ils ne l'ont peut-être pas. Ou surtout, ils l'ont de façon très partielle. J'en veux pour preuve, par exemple, je vais prendre l'achat d'une paire de chaussures. Ben, l'information qu'ils ont, c'est... Il y en a une qui est grosse, c'est l'étiquette. Il y en a une qui est plus petite, qu'il faut chercher, c'est la matière. Puis il y en a une qu'ils n'ont pas du tout, c'est comment cette matière elle a été produite. Par qui, dans quelles conditions et quelles sont les conséquences sur notre économie. Alors, moi j'ai des chaussures, là, des chaussures de luxe, hein, mais quand je les ai achetées, j'ai eu l'impression de faire une bonne affaire. Alors je vais citer la marque, vous l'enlèverez peut-être, c'est Joseph Malinge, c'est fabriqué à 50 km ici, dans les Mauges, c'est du pur cuir. Ça fait 2 ans que je les porte, presque tous les jours. Et puis bah là, elles commencent à fatiguer un petit peu. Donc bah, je vais les porter chez le cordonnier, parce qu'elles sont réparables. Il va me changer la semelle, et puis c'est reparti. Et il n'y a pas de plastique, c'est sain. Il n'y a pas d'externalité négative, parce que souvent, le moins cher à l'étiquette sous-entend des externalités négatives. Soit pour l'environnement, donc ça va pouvoir se mesurer avec les liens des 17 objectifs de développement durable qui sont mis en place par l'ONU. Maintenant, on va commencer, mais c'est des choses qu'on pressentait de façon intuitive, qu'au final, une chaussure en plastique, peut-être qu'elle est moins chère qu'une chaussure en cuir, bah elle est moins chère sur l'étiquette à l'achat, mais c'est pas dit qu'elle soit moins chère pour la société. Voilà. Dans son ensemble, quand on va prendre en compte l'acheminement, la pollution, l'extraction de matières premières, le chômage qu'il faut payer à des gens qui ne construisent plus ces chaussures, parce qu'effectivement, une chaussure en cuir demande plus de main-d'œuvre qu'une chaussure en plastique. Voilà, tout ça, c'est pas pris en compte. Donc ça, c'est une question d'éducation, effectivement. Voilà, qui est un des pôles d'Alizé, où on sème des petites graines, mais on fait ça de façon incitative et volontaire et jamais trop coercitive.
Ça doit pas toujours être facile.
En fait, c'est beaucoup plus facile que ça, parce que quand on dit on peut faire plus qualitatif et moins cher, bah oui, quand vous venez à l'école, si vous emmenez votre fille dans une voiture, bah c'est bien, c'est qualitatif. Mais si vous l'emmenez à pied, c'est clairement moins cher, là, il n'y a pas de doute. Et ça peut être tout aussi qualitatif. Alors peut-être que s'il fait froid, vous aurez un peu plus froid. S'il pleut, vous serez un petit peu mouillé. Mais vous aurez un temps d'échange avec votre fille, par exemple. Et ça, c'est une source de qualité de vie, de lien social, surtout à l'heure où chacun se réfugie derrière ses écrans, qui est difficile à chiffrer, mais qui est pour autant réel. Alizé, je ne l'ai pas dit au début, donc je vais le redire, c'est l'association ligérienne d'information et de sensibilisation à l'énergie et à l'environnement. Donc il y a bien une idée d'information qui est très importante, comme je vous le disais sur avec l'exemple que j'ai pris sur les chaussures. Effectivement, il faut savoir lire un petit peu derrière l'étiquette.
Mmh, bien sûr.
Et l'éducation, c'est nécessaire, donc pour que les citoyens fassent un choix, j'ai envie de dire, conscient et pleinement averti. Quand on ne dit qu'une des solutions, on biaise le choix. Dans le débat qui est fait sur, par exemple, l'installation d'un réacteur nucléaire pour remplacer Cordemais, l'information est dit qu'on va continuer à croître notre consommation d'électricité, qu'on va continuer à augmenter nos besoins. Et donc ça, c'est une voie, mais il y a aussi d'autres voies qui sont possibles. Et ce n'est pas qu'une des utopies d'écologistes extrémistes. Hein. Le scénario RTE, il y a un scénario qui existe, qui est zéro énergie fossile en 2050.